Nous sommes ce que nous mangeons. Si comme nous, vous pensez que notre alimentation peut changer le monde, vous êtes au bon endroit. Je suis Fanny Gianceto, cofondatrice et présidente d'Ecotable. Ecotable s'est donné pour mission d'accompagner le secteur de la restauration dans sa transition écologique en permettant aux restaurateurs de mesurer leur impact environnemental, de se former aux enjeux écologiques et de valoriser leur travail auprès du grand public. Dans ce podcast, j'explore les enjeux sociétaux, sanitaires et sociaux de notre alimentation. Je donne la parole à des experts, mais aussi à celles et ceux qui nous nourrissent au quotidien, qu'ils soient restaurateurs, agriculteurs, entrepreneurs ou militants. La transition écologique ne se fera qu'avec le plus grand nombre. Pour nous soutenir, vous pouvez vous abonner à ce podcast, le noter et nous laisser un commentaire, suivre Ecotable sur les réseaux sociaux, mais surtout venir manger dans les restaurants Ecotable. Bonne écoute! Avant de commencer cet épisode, j'aimerais vous parler de notre nouvelle plateforme de restauration durable dénommée Impact. Cela fait 6 mois que nous travaillons d'arrache-pied avec comme objectif de créer un outil numérique accessible et utile au plus grand nombre de restaurants. Pour être bref, sur cette plateforme, un restaurateur peut mesurer son impact environnemental et le piloter. Ensuite, nous lui donnons 2 ressources pour gagner du temps. Un annuaire de prestataires engagés et de nombreux articles pour comprendre pourquoi et comment adopter une démarche écologique. Avec cette plateforme, nous espérons faciliter une reprise rentable, mais aussi durable pour tous les types de restaurants. Alors si vous êtes restaurateur ou restauratrice, que vous voulez aller plus loin dans la transition écologique, rendez-vous sur impact.ecotable.fr. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode des Militants de l'Assiette. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un qui me tenait à cœur, Fousseni Djikine. Fousseni, d'origine malienne, est le fondateur de Paris Bamako, le premier restaurant africain écotable. Paris Bamako se situe dans le 10e arrondissement à Paris et offre une cuisine autour des plats cultes d'Afrique, comme le mafé, cuisiné ici avec une pâte d'arachide maison. Le mafé se décline en version carnée ou végétarienne pour ceux qui le souhaitent. Mais Fousseni ne s'est pas arrêté là. En plus d'avoir soigneusement sourcé les ingrédients qui composent ses assiettes, il a mis en place une démarche de compensation carbone via la plantation d'arbres fruitiers avec les paysans de Gabou, la terre natale de son père. Depuis lors, une seconde adresse a vu le jour, BMK Folie Bamako, dans le 11e arrondissement à Paris. Fousseni est un personnage inspirant qui a choisi de déjouer les clichés, de mettre en avant la richesse du patrimoine culinaire africain encore trop méconnu. Bonjour Fousseni.
Bonjour Fanny.
Est-ce que tu peux tout d'abord te présenter ?
Alors, je m'appelle Fousseni, comme tu l'as dit. Alors, je suis le cofondateur de BMK. Alors, BMK, c'est, comme tu l'as dit, tout d'abord un premier restaurant qu'on a ouvert dans le 10e arrondissement, donc Paris-Bamako, qu'on a ouvert avec mon petit frère. On s'est associé dès le début de l'aventure. L'origine de BMK, c'est notre volonté de promouvoir la cuisine et les produits africains. En fait, depuis qu'on est tout petit, on est né et on a grandi en France. Par contre, on a toujours baigné dans la culture africaine parce que ça tenait énormément à cœur à nos parents.
Tes parents ont immigré ?
Exactement, ils ont immigré tous les deux quand ils avaient entre 20 et 25 ans. Donc, ils sont arrivés en France un peu comme ils pouvaient à l'époque, voilà, dans un bateau, etc. Et du coup, ils ont toujours essayé de bien s'intégrer en France. Donc, ce qu'ils voulaient, c'était qu'on ait une éducation à la française, entre guillemets, qu'on aille à l'école, etc. Qu'on s'intéresse à la culture française et voilà, qu'on vive vraiment comme des Français, qu'on se considère comme des Français, ce qu'on est. Et en même temps qu'on garde un profond attachement à nos racines. Et du coup, ça passait déjà par le fait de nous parler de la racine, de l'Afrique, du Mali, par pas mal de voyages en Afrique. Quand on était petit, on y allait quasiment tous les ans pour voir notre famille, pour voir la vie là-bas. Et puis aussi en France, notre mère nous a toujours cuisiné des plats maliens. Alors d'Afrique de l'Ouest de manière générale, parce que entre le Mali, le Sénégal, etc., ça se recoupe. Mais du coup, voilà, notre mère a toujours voulu que, notamment à travers la cuisine, on garde nos racines. Et contrairement à pas mal de mères d'origine africaine, en fait, elle était toujours ouverte au fait que nous, en tant que garçons, entrions dans la cuisine. Parce que très très traditionnellement, voilà, il y a beaucoup de clichés qui font que c'est plutôt les femmes qui cuisinent.
Oui, on en a parlé précisément dans ce podcast, dans un témoignage de justement sur la question de est-ce que la cuisine est un moyen de s'intégrer en France. Et notre chef nous racontait précisément que quand il a choisi ce métier, c'était très difficile de l'expliquer à sa mère qui ne comprenait pas parce que un homme ne va pas en cuisine.
Exactement. C'était Haroun Asso.
Oui,
ou... ouais, d'accord. Okay. Bah effectivement, c'est ça. Traditionnellement, ça se comprend pas très bien. Et paradoxalement, en fait, il y a pas mal d'hommes qui ont émigré en France dans les années 70, à peu près ouais, entre 60 et 80, on va dire, et qui sont arrivés en France et qui n'avaient pas forcément de formation et qui du coup sont entrés dans les cuisines et du coup faisaient plutôt des jobs de plongeurs, etc. Des personnes d'origine d'Afrique de l'Ouest. Et qui faisaient plutôt des jobs de plongeurs et qui petit à petit ont gravi les échelons. Et du coup, dans les cuisines à Paris, on trouve souvent des personnes d'origine malienne qui sont dans les cuisines. Quoi. Alors que traditionnellement, effectivement, c'est plutôt réservé aux femmes, on va dire. Et du coup, tout ça pour dire qu'effectivement, notre mère a toujours voulu qu'on s'intéresse à cette cuisine, à ce qu'elle faisait. Et c'était aussi un moyen de pouvoir discuter avec nous, parce que finalement, la cuisine africaine, c'est souvent très long, beaucoup de mijotage, etc. Et vu qu'elle tenait à ce qu'on mange bien, si elle restait, elle, dans la cuisine et nous, dans le salon, on se verrait pas énormément.
Oui.
Donc, c'était aussi un moyen de nous avoir un peu à côté d'elle. Et donc, voilà, mon frère et moi avons été très tôt intéressés par la cuisine en général et la cuisine africaine en particulier.
Donc, dans ton enfance, la place de la culture malienne et particulièrement de la cuisine malienne était importante.
Exactement, c'est ça. Donc, objectif atteint pour nos parents, je pense.
Est-ce que ça voulait dire que ta mère faisait quand même des plats typiquement français ou pas?
Alors des plats phares français pas forcément, c'était très pâtes, etc. quoi. Elle allait pas nous faire parce qu'elle savait pas le faire, une blanquette de veau ou quelque chose comme ça. Après, si elle avait su le faire, elle nous l'aurait fait. En fait, elle voulait qu'on ait vraiment ces deux cultures. Et du coup, si elle avait su, si elle avait connu la cuisine de Robuchon ou autre, elle nous l'aurait fait aussi. Donc voilà, elle essayait vraiment de faire un mix des deux et je pense qu'on était à quasiment 50-50 en termes de type de plat qu'elle nous cuisinait.
Et est-ce que c'est une cuisine que tu as toujours appréciée?
C'est une cuisine que j'ai toujours appréciée personnellement, oui. En termes de goût, voilà, c'est assez fabuleux, c'est extrêmement gourmand. C'est une cuisine qui est très généreuse. Après, effectivement, dans mon enfance, j'en étais pas aussi fier que maintenant. Tout simplement parce qu'elle n'était pas forcément mise en valeur et même par nos parents. En fait, ils voulaient qu'on ait cette culture, mais c'était plus, ils voulaient plus qu'on garde cette culture, mais à la maison, qu'on n'ait pas forcément à l'exhiber dehors. Tout simplement parce qu'elle n'était pas considérée comme une culture qui valait le coup d'être présentée aux autres. Il y a différentes raisons, mais c'est essentiellement lié à la situation économique de l'Afrique à cette période et toujours un peu maintenant. Et le fait que les gens considéraient que vu qu'il y avait un retard économique, la culture allait avec et que du coup la culture était un peu inférieure. Du coup, je parle de manière générale, hein, c'est aussi bien la cuisine que la musique, etc. Et donc effectivement, on en avait un peu honte, entre guillemets.
Ah oui, carrément.
Ouais, pas loin, parce que il y avait pas mal de clichés. Le peu de personnes qui se lançaient dans la cuisine africaine à cette époque rencontraient pas mal de freins. C'était considéré comme de la cuisine odorante, de la cuisine grasse, etc. Alors que pas forcément, ça peut l'être, mais aussi bien que de la cuisine française.
Bien sûr.
Et du coup voilà, on en avait un peu honte, mais malgré ça, et ça arrivait qu'on ait des amis qui venaient à la maison, qui goûtaient cette cuisine, qui nous disaient que c'était super bon, et qui s'étonnaient que ce soit pas plus connu et plus répandu, notamment en restauration, etc. Et du coup voilà, c'est depuis cette époque que petit à petit l'idée a germé de se dire est-ce qu'il faudrait pas faire quelque chose autour de ça.
Ok, donc ça arrive tôt chez toi, l'idée de mettre en avant ce patrimoine culinaire africain?
Ça arrive très tôt. En fait, c'est un mix entre cette envie de faire en sorte que cette cuisine soit connue et puis aussi pas mal de lectures que je faisais sur les raisons du retard en termes de développement économique de l'Afrique et pourquoi il y a pas mal d'auteurs en fait qui font le lien entre ce retard et un peu ce complexe qui s'est créé de l'Africain et de ses racines des livres de Sylvie Brunel, etc. Et du coup, voilà, c'est un peu ce mix des deux, cette envie de mettre en avant cette cuisine et de contribuer au développement économique des pays africains.
Est-ce que tu arrives à dater ce moment où tu te dis il faut que je mette en avant ce patrimoine ?
Alors, le moment où j'ai eu envie de travailler pour le développement économique de l'Afrique, je pense que c'est au lycée à peu près que je l'ai eu. Et le lien avec la cuisine, ça doit être en fin de lycée, je pense, quelque chose comme
tu,
ça.
Tu fais ton lycée où ?
Alors, c'est à Vincennes. C'est un lycée semi-privé qui s'appelle Notre-Dame de la Providence.
Ok. Est-ce que c'était une volonté de tes parents?
Exactement, voilà, c'est ça. J'étais dans le public avant ça, dans le 19e arrondissement à Paris, à
où
Belleville.
Ok. Je viens du 19e arrondissement, d'où ma question.
D'accord, voilà. Bon, c'était à Belleville où c'était. C'est toujours très cosmopolite. Enfin, j'ai des souvenirs extrêmement agréable de mon enfance. C'était beaucoup de, on joue dans la rue avec des personnes d'origine chinoise, vietnamienne, cambodgienne, brésilienne. C'était vraiment extrêmement métissé. Et malgré ça, mes parents estimaient que en termes de niveau académique, c'était pas aussi bien que ce qu'ils voulaient qu'on ait. Et donc on a déménagé par la suite à Montreuil. Et en arrivant à Montreuil, pour le coup, ils ont pas voulu qu'on soit dans le lycée public. Et du coup, voilà.
Tous fait le privé.
Du coup, ma grande sœur non.
D'accord. Vous êtes six, tu m'as dit avant le.
C'est ça, exactement. Alors on est six, dont mes parents. Je sais pas si j'ai jamais précisé.
Quatre frères et sœurs.
On est quatre frères et sœurs, exactement. Du coup, je suis le premier à avoir été dans le privé, et mes deux frères m'ont suivi.
D'accord.
De par cette volonté de mes parents qui considéraient que ça nous offrirait sûrement un meilleur avenir. À tort ou à raison, ça on saura jamais finalement vu qu'ils ont choisi cette voie-là.
Mais tu trouves que c'est un bon choix ? C'est intéressant de savoir si, rétrospectivement, peut-être aussi avec les amis que tu as autour de toi, tu penses que c'était nécessaire ?
Alors, par rapport au lycée qui m'était proposé à Montreuil, oui. Par rapport au public privé, pas forcément. Je pense que, typiquement, mon école élémentaire, elle était à Belleville, dans le public. Et j'ai eu, je me rappelle encore maintenant, des instituteurs qui étaient vraiment exceptionnels, qui étaient passionnés par ce qu'ils faisaient, qui étaient extrêmement cultivés, qui m'ont énormément apporté. Et c'était dans le public. Au collège, c'était peut-être un peu moins vrai. Donc, je pense que ça dépend vraiment des établissements.
Ouais.
Et ça dépend, des instituteurs sur lesquels on tombe, quoi. Parce que j'ai une très bonne amie qui est institutrice, qui est extrêmement passionnée par ce qu'elle fait. Et elle a des collègues qui le sont un peu moins, qui ont un peu atterri par là. Donc voilà, il y a un grand débat de toute façon sur l'enseignement, sur le recrutement dans l'enseignement, sur la formation des enseignants, etc. Il y a un vrai débat de toute façon qui doit avoir lieu, mais voilà. En tout cas, moi, je considère que de mon expérience, c'est plus les établissements que le choix public-privé qui nous ont aidés à grandir et à nous épanouir.
Mais donc, tu arrives dans ce lycée privé et là, arrive le déclic, je sais pas si on peut le dire comme ça, mais
c'est
en tout
ça,
cas, l'envie de mettre en avant le patrimoine africain.
C'est ça, exactement. Et du coup, c'est à ce moment-là que j'ai eu ce déclic et malheureusement, je me suis un peu laissé entraîner dans les méandres de l'élitisme à la française qui dit que voilà, pour réussir, il faut absolument faire une première scientifique, ensuite un baccalauréat, ensuite une classe préparatoire, etc. Donc là, je me suis laissé un peu entraîner par ces discours-là. Donc j'ai fait effectivement une première scientifique, un baccalauréat scientifique. J'ai fait une classe préparatoire ensuite pour la préparation aux écoles de commerce. J'ai fait ensuite une école de commerce. À chaque fois, je pense que tu vas me demander pourquoi. Je ne sais pas.
Moi, ça me choque pas parce qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus de restaurateurs qui ont fait des écoles de commerce.
Exactement.
HEC a carrément mis en place un master de restauration.
Exactement.
On pense ce qu'on veut de la classe préparatoire, ça reste quelque chose de formateur.
Exactement. Voilà, en termes de méthodologie, etc. Je veux pas cracher dessus. Hein. C'est juste que je trouve que c'est dommage de.
Tu l'as fait sans réflexion derrière.
Voilà, c'est ça, exactement. Je l'ai fait parce qu'on m'a dit si tu veux être dans l'élite de la France, faut faire ça.
Et fallait que tu sois dans l'élite de la France.
Pour mes parents, il fallait que je sois dans l'élite de la France.
Incroyable.
Donc voilà, c'était. C'est un peu dommage. Après, effectivement, la réalité fait que, effectivement, en termes de méthodologie, en termes de construction d'esprit, de culture générale, bah, c'est ce qui se fait de mieux. Après, je pense que pour être épanoui dans sa vie, il y a d'autres, il y a des alternatives.
Et qu'est-ce que t'as fait comme école de commerce?
J'ai fait l'ESC Grenoble.
Ok.
Voilà. Et suite à ça, j'ai fait du conseil pendant cette école de commerce, j'ai dû faire un stage. Je savais pas trop quoi faire. Du coup, le conseil, ce qu'on m'en avait dit, c'était que c'était un bon moyen de toucher différents domaines, différentes problématiques.
Donc, à cette époque, t'avais pas un projet professionnel particulièrement identifié lié à l'Afrique?
Pas du tout. Pas du tout. Je l'avais toujours en tête. J'avais toujours l'envie que je gardais un peu de côté et je me disais, on verra plus tard, tout simplement. Et du coup, je le gardais en tête. Je faisais pas mal de lectures autour de ça. Je faisais toujours mes voyages en Afrique avec ma famille, etc. Donc, on gardait toujours cette culture.
Et alors, j'ai lu justement que ces voyages en Afrique, au début, tu rechignais à y aller.
Exactement. On rechignait à y aller. Pour différentes raisons, toujours par un peu ce complexe de l'Africain, aussi parce que autant nos parents ont toujours essayé de faire en sorte qu'on soit imprégné de cette culture et de nous transmettre, autant il y a beaucoup de familles africaines pour qui il y a d'un côté les enfants, d'un autre côté les adultes, et puis les enfants apprennent un peu par eux-mêmes. Et du coup, il y avait un peu des fois où on allait en Afrique, mais pour jouer avec nos cousins aussi bien qu'on pourrait jouer en France. Et du coup, les personnes, pour qu'on se sente à l'aise sur place, notre famille, justement en termes de cuisine, nous proposait plus des pâtes, du riz, etc., pour qu'on se sente, pour faire en sorte qu'on se sente comme à la maison et qu'on se sente à l'aise. Alors qu'au contraire, peut-être qu'il lui fallu qu'on nous propose de manger comme tout le monde sur place. Donc ça fait que on s'entendait extrêmement bien avec notre famille, mais c'était pas si on avait le choix entre aller en colonie de vacances avec nos copains et aller en Afrique quand on avait à peu près 10 ans, on aurait plutôt choisi d'aller avec nos copains en colonie de vacances. Mais après ça nous a quand même rapproché de notre famille parce qu'on a une grande famille une grande partie de notre famille qui est quand même restée en Afrique. Donc ça nous a quand même permis de rester proches de ces personnes-là. Donc sur ce plan-là, c'était très bien. Après, sur le plan culturel, autant nos parents en France nous apportaient énormément, autant une fois qu'on arrivait en Afrique, paradoxalement, on n'allait pas forcément visiter. Je pense que la première fois que je suis sorti de la capitale, Bamako, la capitale du Mali, je devais avoir 15 ans, je pense, quelque chose comme ça. Donc avant ça, on y allait tous les ans. Donc 15 fois qu'on y avait été, on n'est jamais sorti de la capitale.
D'accord.
Et du coup, on a dû insister pour aller un peu visiter. Je me rappelle que c'est ma grande sœur... qui avait quasiment fait une grève de la faim pour avoir le droit de voyager un peu au Mali. Et du coup, ça colle un peu avec ce déclic, quoi.
Et cette richesse de cette double culture que tu as et que tu avais, est-ce que tu l'as vécue à cette époque justement comme une richesse ou plutôt comme un frein, comme une contrainte?
Ni l'un ni l'autre, je pense que je le prenais tel que c'était. Il y avait effectivement ce côté on veut pas forcément l'exhiber en dehors. Avant ce déclic, comme on le disait, je le considérais ni comme un frein ni comme une richesse.
D'accord.
C'est peut-être d'autant plus dommage, mais c'était, en fait, je le considérais comme un fait. C'était que j'avais ces deux cultures. Je le prenais tel quel, j'en voulais pas spécialement à mes parents et j'essayais pas plus que ça de le mettre en avant. C'était quelque chose que j'avais, mais sans me rendre compte à quel point justement c'était une richesse.
Et alors, qu'est-ce qui te fait ensuite passer du conseil à la restauration? Combien de temps tu restes dans le conseil?
J'y suis resté 7 ans.
Ok.
Et du coup, comme la classe préparatoire, je vais pas cracher dessus, c'était vraiment des années extrêmement riches. J'ai rencontré des collègues extraordinaires et qui je suis toujours extrêmement proche. En termes de formation, c'est une école, quoi. En termes de méthodologie, en termes de responsabilité.
Tu faisais du conseil dans quoi?
Alors, c'est dans un cabinet qui s'appelle Accenture, et j'étais spécialisé en grande distribution. C'était différentes missions autour de l'organisation, autour de systèmes d'information, pas mal de systèmes d'information.
Donc dans l'alimentation, donc.
Dans l'alimentation, exactement. Donc c'était plus le côté coulisses que je voyais avec de la logistique, du back-office. Mais ça tournait effectivement autour de l'alimentation parce que c'est quelque chose qui m'intéressait de toute façon. Ça a été de très bonnes expériences. Et ce qui a fait que j'ai changé, c'est que j'ai eu 30 ans. et que je me suis dit, si je me lance pas maintenant, je le ferai jamais, tout simplement. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que je parlais de mon frère avec qui j'ai monté ce projet au début, qui, lui, terminait son stage de fin d'études. Lui a eu un parcours assez similaire au mien. Il a fait une classe préparatoire, il a fait une école de commerce. Il était à l'EM Lyon. Et du coup, a terminé un stage de fin d'études qu'il a fait en fusion-acquisition. Et à ce moment-là, se disait, soit je me lance dans le monde professionnel et peut-être comme mon grand frère, je vais passer 7 ans, certainement très riche, mais pas aller sur ce projet. Soit je me lance sur ce projet. Du coup, voilà, on en a discuté. On s'est dit, c'est maintenant ou jamais.
Mais comment vient l'idée de ce projet? Parce que là, tu nous dis les choses un peu par bribes. Tu nous dis que l'alimentation t'intéressait depuis toujours. Est-ce que t'étais passionné de cuisine déjà?
Alors, il y avait plusieurs choses. J'étais passionné de cuisine, notamment parce qu'on allait en cuisine avec notre mère. Et l'autre aspect, c'est, j'ai pas mal parlé de notre mère. J'ai pas parlé de notre père qui était restaurateur.
Ah.
En fait, il a été, il est arrivé en France. Je parlais tout à l'heure des personnes qui ont immigré en France et qui sont intégrées via la cuisine. Lui, il est arrivé en tant que plongeur dans un restaurant qui s'appelle La Romerie, dans le 6e arrondissement.
Je vois très bien.
Voilà. Et du coup, il y a le propriétaire qui l'a un peu pris sous son aile. Il y a eu une grande affection qui s'est créée, un rapport quasiment de père à fils qui s'est créé. Et du coup, petit à petit, notre père a gravi les échelons. Il a fini gérant de ce restaurant. Du coup, en tout, il a passé 40 ans dans ce restaurant. Il a été 20 ans gérant.
Ah oui.
Et du coup, voilà, c'est via lui qu'on a baigné dans le monde de la restauration.
Oui, donc il a été vraiment restaurateur, quoi.
Exactement.
Il gérait de A à Z un restaurant qui est en plus un restaurant qui a pignon sur rue dans le 6e arrondissement.
C'est exactement ça. Et ce qui était bien, c'est qu'on voyait tous les aspects en fait de la restauration. Aussi bien les aspects sympas, le relationnel client, le fait de proposer des plats qui changent. Parce qu'en termes de cuisine, justement, historiquement, c'était plutôt un bar. On y allait plutôt pour boire des coups dans le quartier latin, etc. Et petit à petit, justement, notre père a eu cette volonté de promouvoir un peu la cuisine. Et du coup, ça a été de la cuisine créole qui a été mise à la carte au début. Puis petit à petit, ils ont proposé quelques plats africains. Après voilà, ça reste la Romerie, donc ça reste l'endroit où on boit des cocktails, mais il y a eu cette arrivée de la cuisine qui est arrivée dans l'établissement, et du coup on a eu aussi bien ces aspects positifs que aussi les contraintes, le fait de travailler le week-end, le fait d'être appelé un samedi à 19h parce qu'un serveur n'est pas venu et du coup faut aller dépanner, le fait de devoir nettoyer des toilettes à 2h du matin alors que des clients éméchés sont passés par là. Du coup, ça a été très bien. C'était très bien qu'on baigne là-dedans. On a fait quelques jobs d'été avec lui. Et du coup, on a eu tous les aspects. Et dès le début, en fait, on connaissait aussi bien les côtés sympas que les contraintes.
Alors, comment émerge cette idée de BMK?
Alors, du coup, c'était plus ou moins dans la continuité. On se disait, la cuisine africaine est méconnue. On adore la cuisine africaine. On connaît le monde de la restauration. On connaît les contraintes. On connaît les avantages. Du coup, voilà, on se lance dans l'ouverture d'un restaurant.
Qui a l'idée, toi ou ton frère?
C'était ensemble. Je pense que on avait peut-être la même idée. Je me rappelle d'ailleurs qu'on avait la première discussion qu'on a eue, c'est notre tout petit frère à qui j'ai parlé de cette idée et qui m'a dit Abdou, il a exactement la même idée. Du coup, je te parlais de mon tout petit frère tout à l'heure. C'est un peu un des piliers de la famille. Et du coup on en a discuté, on s'est dit que c'était un projet pas mal et on s'est lancé de manière assez naturelle. Et du coup ce qui a été un peu plus compliqué, c'était plutôt le fait de convaincre nos parents que c'était un projet qui faisait du sens.
Ah oui.
Parce que eux étaient toujours dans l'état d'esprit de se dire que la cuisine africaine c'est très bien mais c'est plutôt pour rester à la maison.
Si ton père en proposait dans son restaurant.
Même si notre père en proposait, même si c'est lui qui a voulu en proposer. Après, très souvent, entre ce qu'on dit en général et ce qu'on dit pour nos enfants, parfois il y a un peu un écart. Forcément, on veut le mieux pour nos enfants et on n'est pas forcément prêt à prendre des risques, même si notre père savait qu'il y avait un potentiel, vu que c'est ce qu'il a proposé. Mais là, à l'époque, le risque, il le prenait lui. Et voir ses enfants qui prennent ce risque, ça lui faisait un peu plus peur. Mais c'est une attitude de parents qui est très, très compréhensible.
Et tu les as facilement convaincus?
On les a convaincus facilement, pas forcément. Ça a été laborieux. Après, ils étaient pas de freiner le projet. C'était plus, ils nous faisaient part de leurs inquiétudes. Après, ce qu'ils nous ont tout de suite fait comprendre, c'est si vous y allez, on vous soutiendra. Mais par contre, on sentait que c'était à reculons. Et c'est petit à petit, quand on a essayé de leur faire comprendre qu'il y a une vraie cohérence dans le projet, le but c'est pas juste d'ouvrir un restaurant et de proposer des plats, c'est d'aller vraiment plus loin et de contribuer au développement économique des produits des pays africains, notamment par la cuisine. Quand ils ont compris que voilà que c'était un projet sur le long terme et pas juste ouvrir un restaurant, faire de l'argent et puis en vivre. Et du coup, je pense que c'est quand ils ont compris un peu le sens de ce projet qu'ils ont commencé à s'intégrer même dans ce projet. Du coup, notre père, on a ouvert un an avant qu'il soit à la retraite. Du coup, en pré-retraite, il a commencé à nous donner un coup de main dans l'ouverture, les préparatifs, etc. Il a fait pas mal de services en salle. Et notre mère est cantinière. Depuis pas si longtemps que ça, en fait, elle a eu un peu cette envie. Elle a été femme au foyer pendant très longtemps, justement pour s'occuper de nous. Et quand on a tous été en âge de s'occuper de nous-mêmes entre guillemets, elle a eu envie de travailler. Donc voilà, elle a commencé, je pense, il y a 10 ans, quelque chose comme ça. Et du coup,
elle prépare les plats, les sert.
Du coup, c'est plutôt le service, le conditionnement et le service. Et du coup, elle nous a été extrêmement utile, d'une part sur le fait sur sa connaissance des recettes africaines, parce que les premières recettes qu'on a proposées, c'était ses recettes. C'est vraiment les recettes telles qu'elle les a apprises au Mali, telles qu'elle nous les propose depuis qu'on est tout petit. Et puis, effectivement, en termes d'hygiène, elle a été plutôt à la bonne école, parce qu'en restauration scolaire, on plaisante pas. Donc voilà, ça nous a pas mal aidé. Et au début, elle était en cuisine avec nous. On a ouvert en juillet 2017.
Donc c'est elle qui a conçu les plats.
Alors les plats traditionnels, oui, c'est elle qui les a conçus. On n'a pas été très loin. On a pris les trois plats qu'on préférait, trois plats un peu les plus connus. Du coup, le mafé dont tu parlais au début, le yassa et le tiéboudienne. Donc c'est les trois premiers plats qu'on a proposés.
Qui sont trois plats maliens.
Alors le mafé est d'origine malienne. Le yassa et le tiéboudienne sont d'origine sénégalaise.
Est-ce que tu peux expliquer, alors mafé, donc comme je l'ai dit au début, c'est avec une purée de cacahuètes.
C'est ça,
est-ce
exactement.
Que tu peux nous expliquer les deux autres recettes?
Alors le yassa, c'est la base, c'est une sauce à base d'oignons un peu confit, avec une sauce un peu acidulée dans laquelle il y a notamment du citron. Et c'est servi traditionnellement avec du poulet, et c'est servi et c'est accompagné de riz blanc. Donc voilà, c'est un plat d'origine sénégalaise qui est très bon, qui est plein de peps, avec justement la moutarde, le citron, etc. Et le tiéboudienne, c'est un plat qui s'apparente un peu à un risotto. En fait, c'est un riz qui est très court, qui mijote dans une sauce à base de tomates et d'épices douces, qui est servi avec pas mal de légumes et avec du poisson pour le tiéboudienne. Après, ça peut être avec de l'agneau. En fait, le tieb, c'est la recette à base de riz rouge, enfin le riz qui mijote dans la sauce. Et le tiéboudienne, c'est avec du poisson. Le tiébouyap, c'est avec de l'agneau. Le tiébguinard, c'est avec du poulet.
Okay.
Et du coup, nous, c'est la recette au poisson qu'on a choisie pour avoir une proposition de quelque chose au poisson. Et on voulait proposer aussi des salades du coup à base d'ingrédients africains, parce que il y a une demande de plats qui sont pas forcément considérés comme copieux. Donc voilà, on a essayé de constituer nous-mêmes des recettes à base de produits typiquement africains, et on a essayé de proposer des desserts là de la même manière. Traditionnellement, il y a pas forcément de dessert en Afrique. Il y en a un qui est très connu, le tiakri.
C'est quoi?
C'est une base de semoule de mille avec du, traditionnellement, c'est du lait caillé, qui est mis par-dessus. Nous, c'est du fromage blanc qu'on parfume avec de la fleur d'oranger, avec de la muscade africaine, etc. Et au-delà de ça, on a essayé de proposer d'autres desserts. Donc, il y a quelques créations comme un gâteau à base de patates douces, un moelleux au chocolat de Côte d'Ivoire. Voilà, des choses qu'on essaie d'aller un peu plus loin dans les propositions. Donc voilà, il y a une partie très traditionnelle que notre mère a constituée, puis d'autres choses qu'on a un peu inventées pour aller un peu
mais
plus.
Mais c'est
loin.
Génial alors, parce que tes parents étaient réticents, puis finalement t'arrives à faire venir ta mère en cuisine, quoi.
Exactement, c'est ça. Au début, peut-être qu'elle est allée en cuisine justement parce qu'elle se disait
ils font n'importe quoi.
Voilà, exactement. je suis pas rassuré, mais au moins si j'y suis, je pourrais les surveiller. Elle a toujours aimé cuisiner, donc finalement cuisiner pour des amis ou des clients, finalement ça reste.
Ah, parce que elle a pas seulement conçu les recettes au début,
elle était vraiment en cuisine.
Incroyable.
Du coup, on avait d'une part les plats traditionnels et d'autre part, comme je le disais, les plats un peu revisités. pour cette deuxième partie-là, on avait un chef qu'on avait essayé de, enfin qu'on a débauché d'un, non, qu'on a essayé de débaucher d'un autre restaurant, qui
un chef d'origine africaine aussi.
Alors non, il était d'origine antillaise, mais par contre, il nous avait été recommandé par un ami, et c'était plutôt les compétences. En fait, on se disait que la connaissance de la cuisine c'était plutôt notre mère, et la technique en termes de cuisine c'était plutôt lui. Malheureusement, il a quitté le restaurant plutôt. Pas forcément en mauvais termes, je pense que il a peut-être eu des appréhensions sur la suite du projet. Il a préféré retourner dans le restaurant dans lequel il était, qui fonctionnait déjà très bien. Donc voilà, c'est un peu il y a une période de flottement un peu. Du coup, on a ouvert en juillet, lui il est parti je crois au mois d'août à peu près.
En juillet 2017.
Du coup, quasiment 4 ans. Donc il y a eu un peu une période de flottement où du coup c'était ma mère et moi qui étions en cuisine pendant,
toi aussi du coup.
Du coup ouais, bah par la force des choses.
Est-ce que c'était une de mes questions, est-ce que tu t'es formé au métier de restaurateur avant?
Pas du tout. Alors de restaurateur via mon père, de cuisinier pas du tout. J'ai aucune formation de cuisinier.
Que ça soit toi ou ton frère.
Que ce soit moi ou mon frère, exactement. Donc effectivement, il y a eu une période où personne n'était cuisinier de formation en cuisine. Après voilà, on a essayé de mettre toute la passion qu'on avait, toute la connaissance qu'on avait de la cuisine africaine pour sortir des plats qui tenaient la route et même au-delà de ça voilà qui plaisaient vraiment. Et du coup par la suite finalement on a un cousin, ça reste toujours une affaire de famille.
C'est vraiment
du coup
une affaire de famille.
Exactement,
ça.
Un cousin qui nous a rejoint dans l'aventure, qui lui était cuisinier. Alors pas de formation, il a appris sur le tas en arrivant en France aussi. Lui il a grandi en Afrique et il est arrivé en France quand il avait une vingtaine d'années. Et par contre il a toujours travaillé en cuisine et donc il était commis dans un restaurant à Paris. Et on discutait de ce projet, et voilà, ça l'a motivé. Donc lui, voilà, il nous a fait revenir à la fois la connaissance de la cuisine africaine et la technique, puisqu'il a travaillé même quasiment une quinzaine d'années dans des cuisines à Paris. Et du coup, notre mère finalement a fini par partir des cuisines, mais pas parce qu'elle ne s'intéressait plus au projet, parce qu'on commençait à avoir un certain volume. Et que faire la cuisine pour la famille et faire la cuisine pour énormément de clients, voilà, c'était plus exactement le même métier. Et du coup, d'elle-même, elle a préféré se mettre un peu en retrait. Donc, jusqu'à présent, elle garde toujours un œil sur ce qu'on fait, aussi bien sur la cuisine qu'en termes d'hygiène. Mais du coup, voilà, petit à petit, on a essayé de recruter du coup des personnes un peu plus familières des cuisines. Et voilà.
Et est-ce que BMK a tout de suite rencontré son public?
Alors son public, oui et non. En fait, on a différents types de clients. Au début, c'est très clientèle du quartier qui connaissait pas forcément la cuisine africaine et qui disait
parce que t'es à alors pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est vraiment dans le 10e arrondissement à côté de la gare de l'Est, c'est rue de la Fidélité.
C'est ça.
Donc à la fois à côté d'un quartier très africain et à la fois à côté d'un quartier très bobo.
Exactement. Et du coup, au début, c'est plutôt le côté bobo qui nous a connus. Voilà, des personnes qui passaient là et qui par curiosité se disaient c'est un restaurant africain, en même temps le concept a l'air un peu moderne, assez sympa. Donc voilà, c'était des personnes qui franchissaient la porte en se disant je vais tester et on verra ce que ça donne. Et du coup, de ce côté-là, ça a commencé à plutôt bien marcher. Et du coup, les personnes qui connaissaient la cuisine africaine, effectivement, c'est arrivé un peu plus tard, parce que justement, ces personnes se disaient que peut-être qu'on travestissait la cuisine africaine et qu'ils n'allaient pas retrouver les saveurs qu'ils connaissaient. Et du coup, ces personnes-là, ouais, ça a peut-être mis à peu près 6 mois à prendre avec cette clientèle-là.
Parce que ton restaurant est très beau et fait un peu branché. Est-ce que tu penses que ça, en effet, ça a pu effrayer
Ça les a complètement effrayés au début. Mmh. Et justement, ce qui nous plaît aussi, c'est dans le fait de discuter avec ces clients. Et il y en a énormément qui nous le disent, qui nous connaissent depuis le début, mais qui se disaient que ça allait être un truc branché avec des fausses recettes africaines. donc effectivement, on a pas mal de clients qui ne voulaient pas venir chez nous au début et qui petit à petit soit en goûtaient d'eux-mêmes, il y a eu un effet bouche à oreille qui disait que on essayait de faire les plats traditionnels, on les fait vraiment comme ils sont proposés en Afrique. Et donc là, voilà, c'est, je pense, dans le top de mes fiertés, il y a, je pense que ça en fait partie, quoi. Le fait qu'on ait aussi bien des personnes qui connaissent l'Afrique, cuisine africaine, que des personnes qui ne la connaissent pas du tout.
Génial. Est-ce que tu as rencontré des difficultés particulières avec le milieu de la restauration, notamment en tant que Français d'origine malienne? On dit souvent que c'est un milieu qui est dur, voire un milieu qui peut être raciste. Est-ce que toi, tu l'as vécu comme tel?
Dans le monde de la restauration, je t'avoue que non, je l'ai pas rencontré frontalement. Effectivement, j'ai entendu pas mal d'histoires comme ça. Après, peut-être qu'effectivement, en termes de recrutement, parce qu'on a eu cette période où au tout début, comme je te disais, on voulait notre mère qui connaît la cuisine africaine et un autre chef un peu plus technique. Du coup, là, peut-être qu'effectivement, ça, la restauration africaine, peut-être que ça a effrayé quelques personnes quand on leur a présenté le projet. Mais après, personnellement, non, je t'avoue que j'ai pas eu de...
C'est aussi que t'as tout de suite été à la tête de ton projet.
Peut-être. C'est peut-être aussi lié à ça. C'est peut-être aussi lié au fait qu'on essaie de faire preuve de beaucoup de pédagogie dans ce qu'on propose. Et, qu'on essaye, entre guillemets, de rester à notre place, quoi. Le but, c'est, y a certaines personnes qui le font très bien. Le but c'était pas de proposer de la cuisine étoilée, voilà le meilleur restaurant. Voilà, on savait que ce qu'on voulait c'était quelque chose de très généreux, de très familial, avec énormément de goût. Mais voilà, on était conscient de nos limitations, notamment en termes techniques. Donc voilà, peut-être que le fait d'avoir été un peu le plus humble possible dans ce qu'on proposait, ça a fait que voilà, peut-être qu'on a, si on avait été un peu plus gourmand dans notre discours, peut-être que effectivement ça aurait bloqué plus de personnes en face de nous, quoi.
Et alors, tu nous as dit tout à l'heure que ce que tu voulais mettre en avant aussi, c'est comme ça que tu as convaincu tes parents, c'était de manière globale les produits africains.
C'est ça.
Ce qui est intéressant dans ton restaurant, c'est qu'il a un engagement fort, on en a parlé. Pour nous, ça a été une grande fierté. Ça a été notre premier restaurant africain labellisé Écotable. Et de fait, tu respectes les saisons, tu as un sourcing hyper intéressant. Et pour les produits qui viennent de loin, tu as même une démarche de compensation carbone. Comment ça s'est fait, ça? Est-ce que dès le départ, tu t'es dit que un restaurant de cuisine africaine devait être engagé, devait avoir une démarche environnementale et sociale poussée?
Dès le départ, effectivement, ça faisait partie de l'état d'esprit, parce qu'effectivement, on se disait que contribuer au développement économique des pays africains, si ça se fait au détriment de considérations environnementales et sociales, c'est un peu contradictoire. Enfin, c'est même pas un peu contradictoire, c'est complètement contradictoire. On peut pas pousser d'un côté, au détriment de l'autre. Donc, effectivement, ça faisait partie de ce qu'on voulait faire. Après, alors ce qu'on avait déjà en tête, c'était effectivement pour promouvoir les produits africains. On était obligé de proposer des produits africains en France, et du coup, ça a forcément un impact sur l'environnement. Donc le premier aspect, c'était effectivement cette mise en place d'une démarche de compensation carbone. Et ça, c'est venu du fait qu'au moment de la création de ce projet, j'ai voyagé au Mali. C'était aux alentours de 2016-2017, et notamment au village natal de mon père, Gabou, dont tu parlais au tout début, qui est dans l'ouest du Mali. Et ce que j'ai vu, c'est qu'il y a énormément de terres qui sont extrêmement fertiles, mais qui étaient complètement laissées à l'abandon. Notamment parce que le fait que le métier agricole est un peu délaissé en Afrique. Enfin, c'est un peu vrai aussi en France, hein, de toute façon. Mais voilà, les travaux agricoles sont un peu connotés, sont un peu délaissés par les personnes là-bas. Et du coup, il y avait énormément de terres qui sont extrêmement fertiles et qui étaient à l'abandon. Et du coup, ce qu'on s'est dit, c'est pourquoi pas planter des arbres, tout simplement, puisqu'on a la place, ça nous coûte absolument rien. Planter un arbre, voilà, c'est juste un plan, finalement. Après, il faut la personne pour l'entretenir. Mais voilà, la première étape, c'était ça, du coup, compenser le fait qu'on importe indirectement des produits africains en plantant des arbres. Après, le deuxième aspect, c'était aussi faire en sorte que les personnes sur place soient fières de leur patrimoine et notamment de leurs produits. Et du coup, faire en sorte que ce soit pas juste nous qui y allions une fois tous les ans planter des arbres et rentrions en France, mais qu'il y ait vraiment des personnes sur place qui s'attachent à ces plantations et qui vivent de cette plantation-là. Et du coup, on a deux choses. On a d'une part des arbres fruitiers et aussi une culture maraîchère qu'on a mis en place pour que justement ces personnes puissent vendre les produits qu'ils plantent et vivre de leur récolte.
Et ça a été facile à mettre en place, ça?
Ça a été assez facile. Bah, les personnes nous, sur place, nous regardaient un peu comme des extraterrestres quand on leur disait qu'on plantait des arbres sur des terres qui étaient absolument pas utilisées. Après, je veux pas dire qu'on est les premiers à avoir fait ça. Il y avait quelques agriculteurs un peu éparpillés qui avaient déjà lancé un peu leur culture et qui arrivaient à en vivre. Et c'est justement ça qui nous a confortés dans cette idée. Et du coup, voilà, c'est justement le fait que, pareil, on essaie toujours d'être pédagogue aussi bien en France que là-bas. Et on a expliqué que, voilà, le projet, c'était cette démarche de compensation carbone et puis aussi le fait que ils ont de super produits, de la mangue, de la papaye, etc. Et du coup, c'est dommage d'avoir des exploitants d'autres produits qui viennent exploiter leur terre alors que eux ils les ont et que ces terres elles sont à disposition et comme je le disais elles sont extrêmement fertiles. Il y a énormément de nappes phréatiques en fait dans la zone dont je parlais à Gabou au Mali. Du coup, il n'y a même pas besoin en termes d'irrigation d'aller chercher de l'eau très loin. En fait, pendant la saison des pluies, ces nappes phréatiques se remplissent et elles suffisent largement pour arroser ce qu'il faut et pour ne pas avoir à utiliser de pesticides pour faire pousser plus vite ou quoi que ce soit.
Et ces arbres et ces plantations de manière générale, elles servaient vraiment sur place. Toi, tu n'as pas eu l'idée de vouloir importer les produits qui venaient de ces arbres. Par exemple, je pense à la mangue parce que tu vends, il me semble, de la mangue séchée dans ton épicerie.
Exactement, on vend de la mangue séchée. Alors, pas tout de suite parce que là, étant donné les volumes qu'on ferait, ce serait intéressant si on l'importait par avion et avec très peu de quantité. Et du coup, là, voilà, en termes de compensation carbone, on n'y serait pas vraiment. Mais à terme, pourquoi pas, si effectivement on arrive à faire un volume intéressant, pourquoi pas importer de la mangue par bateau. Mais là, pour l'instant, étant donné les volumes qu'on fait, financièrement, je pense qu'on s'y retrouverait pas. Et puis, en termes environnemental, je pense que pour le coup, on casserait tous nos efforts. Mais ça fait partie effectivement des idées qu'on a sur le long terme.
Quelle est la quantité de produits africains que tu utilises? Parce qu'au final, on n'en a pas encore vraiment parlé, mais tu as une partie épicerie dans ton restaurant où tu promeus les produits africains. Mais dans les recettes, ma question c'est, est-ce que on peut pas faire de la cuisine d'ailleurs avec des produits d'ici?
Alors il y a plusieurs recettes. On parlait tout à l'heure des trois recettes phares, le mafé, le yassa et le tiéboudienne. Et justement pour les deux dernières recettes, c'est des produits qui sont d'ici, effectivement. Donc le yassa, je parlais du coup d'une sauce à base d'oignons, de légumes, etc. Du coup c'est que des produits qu'on trouve ici, donc il y a pas besoin d'importer pour ça. Le poulet, pour la recette classique entre guillemets, c'est du poulet fermier français. Le tiéboudienne, c'est pareil, c'est un riz qui est cassé, qui est mijoté dans une sauce à base d'épices douces et de légumes. Du coup, effectivement, pour tout ce qui est légumes qu'on trouve ici, on n'a pas besoin de l'importer. Donc, c'est, voilà, des légumes français à la base, de plus en plus bio. Et la saisonnalité, pour être honnête, c'est avec Écotable qu'on l'a mis en place. Parce que ça faisait partie des critères et à raison. Et du coup, le fait d'utiliser des légumes des saisons, on le faisait pas parce qu'effectivement, comme je disais tout à l'heure, il y a une partie de notre clientèle qui connaît la cuisine africaine et qui est habituée à trouver un tiéboudienne avec du poivron toute l'année. Donc au début, on utilisait du poivron toute l'année. Et du coup, il y a eu ces échanges effectivement avec Écotable et cette réflexion de se dire, on peut garder cet aspect traditionnel des recettes et en même temps, pour les légumes, utiliser des choses de saison. Et du coup, c'est ce qu'on a mis en place et ça marche très bien.
T'as eu des remarques de tes clients?
On a eu aucune remarque. Honnêtement, on a travaillé notre discours presque sur des fiches pour savoir à quoi répondre. Et pour l'instant, ces fiches, on n'a pas eu besoin de les toucher. Il y a eu absolument aucune remarque. Et du coup, c'est extraordinaire. On a juste dit que c'était des légumes de saison. Et je pense que de toute façon, il y a une prise de conscience générale qui fait que les gens savent que, même si tout le monde ne l'applique pas, les gens savent que c'est mieux de manger des choses de saison.
Ouais, bien sûr, bien sûr. Et du côté épicerie, comment tu as choisi les produits que tu voulais mettre en avant?
Alors, c'est tout d'abord des fournisseurs qu'on a choisis. En fait, c'est des fournisseurs qui ont une démarche qui s'apparente à la nôtre. Ce qu'on veut, c'est une démarche, pas forcément un label équitable, mais au moins une démarche qui va dans ce sens. Le fait de d'acheter des produits bruts auprès de producteurs avec une juste rémunération. Le fait que les produits soient le plus naturel possible, si possible bio, mais après c'est pas un impératif parce que on peut être entre guillemets bio sans avoir le label. Après voilà, on sait que bio c'est parfois pas mal de démarches, ça peut être un peu coûteux pour certains petits producteurs. Donc on regarde la démarche plutôt que le label pour le moment. Et du coup au début on a trouvé 2-3 fournisseurs qui répondaient à ces critères-là. Et du coup, parmi leurs catalogues, ce qu'on a voulu, c'était des produits, d'une part, qui soient bons, forcément. Et puis aussi, un mix entre des choses qui sont un peu connues, mais pas forcément répandues. Typiquement, des confitures à base de mangue. On parlait de la mangue, c'est très connu, mais trouver de la confiture de mangue, c'est un peu plus rare. Et puis après, faire un mix entre des produits qui à base de des produits d'épicerie à base de produits bruts connus, et puis aussi des choses un peu moins connues, des choses à base de feuilles de manioc, des farines à base de bananes plantain, de patates douces, etc. Du coup, voilà, le but, c'est d'avoir un mix entre des choses connues et un peu moins connues, toujours d'origine africaine, toujours naturelle. Et là, on est sur une tendance, c'est plutôt des fournisseurs en fait qui nous contactent pour proposer leurs produits dans l'épicerie. Et du coup, on a toujours un peu les mêmes critères de sélection, mais voilà, on est un peu moins en prospection et c'est plutôt des demandes qu'on sélectionne.
Comment il est né chez toi, Fousséni, cet engagement environnemental ? Est-ce que il a toujours été là ? Est-ce que tu as eu une prise de conscience ?
Il a toujours été dans un fond de ma tête.
Tes parents sont déjà engagés ?
Pas à la base. À la base, en fait, c'est notre tout petit frère.
Encore lui.
Encore lui. Qui a un peu convaincu toute la famille. On a toujours eu cette, je dirais pas la plupart des Français, mais comme énormément de gens en France sont au courant des enjeux. Mais par contre, voilà, on était au courant, mais on se disait, voilà, on va juste de temps en temps trier un peu, et puis ça sera déjà très bien. Et du coup, c'est notre tout petit frère, en fait, qui nous a fait prendre conscience, qu'il faut et qu'on peut assez facilement aller beaucoup plus loin, et que c'est au début un effort, mais finalement, c'est des mécanismes qui se mettent en place, et que finalement, ça devient assez naturel, que ce soit dans nos achats, dans regarder un peu l'origine, la composition. Qu'est-ce qu'on mange, on parlait en aparté au tout début du fait d'essayer de manger le plus possible végétarien ou vegan, et du coup ça c'est lui qui l'a introduit dans la famille, parce que en fait c'est assez marrant, dans la culture africaine historiquement le fait de manger de la viande c'est plutôt réservé à des personnes qui ont eux-mêmes leur poule ou leur mouton, etc., soit des familles plutôt aisées. Donc en fait traditionnellement finalement il y a peu de viande dans la cuisine africaine. Et malgré ça, y a pas mal de familles qui ont immigré en France d'origine africaine qui se sont mis à consommer énormément de viande parce qu'ils se disaient que ils en ont les moyens en France, donc il fallait, parce que c'est nécessaire d'avoir de la viande dans ces plats. Alors que historiquement, la cuisine africaine peut très bien être faite de manière sans viande et même sans gluten, etc. Donc voilà, on est avec notre tout petit frère, on est un peu revenu à nos racines et au fait de se dire qu'on n'a pas besoin de manger de la viande à tous les repas.
C'est la raison pour laquelle vous avez mis en place un mafé vegan.
Exactement, c'est ça. Donc pour tous nos plats, on essaye d'avoir des déclinaisons vegan. Tu m'as très justement fait remarquer qu'il y en a un pour lequel ce n'est pas le cas, donc je te promets de m'y atteler.
La raison est que je voulais manger ce plat et que je n'avais pas envie de manger de la viande ce jour-là.
Voilà, exactement. Donc assez facilement, en fait, on s'est dit que la base de ces plats, c'est souvent les épices, les légumes, etc. La viande, c'est plutôt pour agrémenter. Donc en fait, pour chacun de ces plats, on s'est dit qu'on allait proposer une déclinaison végane pour le coup.
Est-ce que ça séduit aussi ta clientèle d'origine africaine ?
Pas forcément, non. Alors eux, ça les repousse pas forcément, mais c'est pas pour ça qu'ils viennent. Après, ils comprennent très bien l'enjeu, ils comprennent très bien les raisons, mais après c'est un peu caricatural, mais ces personnes d'origine africaine en général prennent plutôt les versions avec viande.
Oui, parce que tu dises que historiquement, en effet, la viande était réservée à des personnes aisées ou en effet à des éleveurs, mais dans les faits, aujourd'hui, en tout cas peut-être en France. C'est plutôt les personnes d'origine malienne vont plus manger de viande peut-être que d'autres.
Exactement, c'est ça. Parce que effectivement, ça fait partie un peu des petits luxes que ces personnes pouvaient pas se permettre quand ils étaient petits et qui se trouvent un peu plus facilement en France quand on fait pas attention à la qualité, à l'origine de la viande. Trouver de la viande pas chère, c'est facile, quoi.
Mais c'est la même chose en France, en réalité. La viande était un produit de luxe à l'origine et maintenant ça ne l'est plus. Et je pense que les plus gros consommateurs de France, de viande, pardon, ne sont pas les personnes les plus aisées.
Exactement. C'est exactement ça. Parce que, bah, justement, quand on regarde pas forcément la qualité du produit, bah, on peut trouver de la viande, très peu chère. Du coup, effectivement. Mais après, voilà, que de la même manière qu'en France, on a cette prise de conscience, je pense que ce soit des personnes françaises d'origine africaine ou des personnes en Afrique, voilà, cette prise de conscience, elle se fait petit à petit. Et voilà, on a envie d'y contribuer à notre petite échelle, justement, en proposant ce type de plat.
Et alors, toi, depuis, tu as eu toi-même des enfants?
Exactement.
Je le sais parce que tu me l'as dit. comment tu fais passer cette culture africaine à ta fille?
Beaucoup via les grands-parents, toujours.
D'accord.
Parce que c'est eux qui la connaissent le mieux, cette culture. Du coup, toujours via la cuisine. Enfin, ma première fille, son plat préféré de tous les temps, c'est le yassa, justement. et elle alterne entre celui de mamie et celui de Ali, le cuisinier de notre premier restaurant. Donc c'est via la cuisine, c'est via le langage, parce que ça joue aussi beaucoup. Et du coup, j'insiste.
Tu parles le dialecte.
Exactement. Alors nos parents, surtout notre mère, nous a toujours parlé le Bambara, qui est le dialecte le plus répandu au Mali. Notre père parle le Soninké, qui est un autre dialecte, mais il nous parlait beaucoup plus français, donc ça fait qu'on ce dialecte, je le comprends un peu, mais je le parle absolument pas. Par contre, le Bambara, je le parle très bien, et j'insiste pour que mes parents parlent à leurs petits-enfants en Bambara.
Et toi, tu leur parles en Bambara aussi?
Moi, non, pas forcément pour le moment, parce que j'ai pas envie qu'ils se mélangent les pinceaux, parce que ma première fille, elle a tout juste 3 ans. Donc voilà, je pense que c'est peut-être un peu tôt et que c'est bien que après il y a toutes sortes d'études sur le sujet, mais c'est bien qu'elle associe chaque langue à, enfin qu'elle mélange pas les langues tout simplement, et du coup qu'elle se dise que mamie parle très bien français, mais que voilà elle parle bambara avec mamie. Et moi, pourquoi pas lui parler bambara plus tard, mais du coup, je pense que ça fait partie de la culture. Et là, encore une fois, c'est moi qui insiste auprès de mes parents. Mes parents spontanément vont plutôt parler français. Après, je veux pas non plus être un extrémiste de la langue, mais voilà, j'essaie de leur dire que il y a certains parents d'origine, américaine, qui parlent anglais à leurs petits enfants et que ça les enrichit tout aussi bien que le fait d'apprendre une autre langue que le français à cet âge-là.
Est-ce que la cuisine malienne est aussi importante chez toi? Est-ce qu'à la maison on mange de la cuisine malienne?
Pas forcément, parce que le midi je mange déjà beaucoup au restaurant.
Pas fou.
Donc le soir on essaye de pas le reproduire. Après ça en fait partie indirectement, parce que ça arrive souvent que je rapporte des plats du restaurant ou que ma femme ou mes filles viennent manger au restaurant. Donc finalement, que ça en fasse partie à la maison, dans notre vie de manière générale, ça en fait complètement partie, effectivement.
C'est quoi l'avenir pour BMK?
L'avenir pour BMK, c'est d'aller, je pense, encore plus loin dans tous ces projets-là, parce que jusque-là, on a essayé de beaucoup travailler sur la constitution d'un socle, notamment financier, parce que on a énormément d'idées, mais tout ça, faut les financer. Donc ce socle, c'est les restaurants, parce que c'est le produit d'appel, c'est ce qui fait que les gens rentrent. Si dès le début on avait juste fait une association, si on avait juste fait une épicerie, ça aurait peut-être marché, mais je pense que ça aurait mis peut-être un peu plus de temps. Donc là, ce socle, on commence à le solidifier malgré le contexte. Comme je te le disais tout à l'heure, le deuxième restaurant, on l'a ouvert l'avant-veille du premier confinement. Donc voilà, c'est pas forcément évident, mais...
T'arrives à t'en sortir quand même financièrement?
On arrive à sauver les meubles, on va dire. C'est pas la folie, mais on arrive à sauver les meubles. Et puis surtout, peut-être il y a deux choses. Il y a d'une part le financier, et puis il y a aussi le fait de vouloir garder un certain rythme et de pas se dire on coupe les ponts jusqu'à ce que la réouverture, et puis ensuite on réouvre avec toute l'équipe. Et il y a aussi la volonté de l'équipe, en fait, de venir travailler, de venir contribuer à ce projet.
Tu as toujours fait de la vente à emporter?
Et oui, effectivement, on a toujours fait de la vente à emporter. Je pense que ça a largement facilité là où certains restaurateurs peut-être se sont mis à la vente à emporter. Nous, ça a toujours fait partie du concept. Le premier restaurant, en fait, il y a vraiment un comptoir de vente à emporter depuis le premier jour. Parce qu'on pensait que c'était un mode de consommation qui allait pas forcément se développer, mais voilà, qui faisait partie des habitudes. Du coup, dès le début, on a effectivement mis l'accent sur la vente à emporter, donc on a eu beaucoup moins de mal à faire la transition en cette période. Donc voilà, finalement, le contexte est plus frustrant que catastrophique pour nous. Donc je touche du bois, mais ça va pour l'instant.
Je vais te poser les deux dernières questions que je pose toujours. La première, c'est est-ce que tu te considères comme un militant de l'assiette? Est-ce que le terme militant te convient ou pas tellement?
Moi, il me convient parce que ça peut être effectivement connoté, mais pour moi, un militant, c'est juste quelqu'un qui a des engagements forts, qui y croit et qui fait ce qu'il peut pour les mettre en avant. Et j'ai l'impression que c'est ce qu'on fait. Après, je pense que quand on dit militant, on pense tout de suite à José Bové. Donc voilà, je pense qu'on n'est pas obligé d'être extrémiste dans ses convictions et dans la mise en application de ses convictions. Et donc, ouais, militant, moi, c'est plutôt un honneur d'être considéré comme ça.
Je comprends, j'aurais une réponse similaire. ma dernière question, c'est si tu avais une proposition politique à faire aujourd'hui pour l'alimentation durable, ce serait laquelle ?
Très bonne question. non, bah du coup, ce qui existe, je parlais d'hygiène tout à l'heure, il y a pas mal de réglementations qui existent en termes d'hygiène. Et il y a notamment j'ai oublié le nom. Il y a le site Alim Confiance. En fait, il y a une notation qui existe et qui est avec des contrôles de personnes qui sont assermentées, etc. Sur le contrôle de l'hygiène en restauration, et je me dis pourquoi pas, est-ce que ça pourrait pas être parce que là il y a notamment le label écotable, il y a quelques démarches qui existent, écotable est le plus avancé sur le domaine, mais je pense que ça pourrait être beaucoup plus mis en avant justement pour faire en sorte que les restaurateurs connaissent cette démarche tout simplement, parce que je pense qu'il y en a énormément qui la connaissent pas du tout. Et puis aussi, pouvez l'intègre, parce que malheureusement, il y a des fois où s'il n'y a pas un peu de contrainte, les choses ne se font pas.
Donc tu veux dire une notation pour tous les restaurants sur l'aspect
environnemental? Exactement, voilà, je pense que ça pourrait être pas mal. Après, il faudrait pas non plus que ce soit vu comme un bâton et que ça se transforme en sanction, mais plus en accompagnement, parce qu'effectivement, sur l'hygiène, voilà, c'est très souvent vécu en sanction. Et là encore, ça dépend beaucoup, je pense, de l'inspecteur qui passe. Nous, on a pas mal été inspectés. En 3-4 ans, on a été inspecté 3 fois et à chaque fois, on est tombé sur des inspecteurs qui étaient extrêmement, qui étaient beaucoup dans l'accompagnement, qui étaient pas là pour dire on va vous fliquer, essayer de trouver ce qui va pas pour vous sanctionner. Mais voilà, du coup, de la même manière, je pense que s'il y avait, je sais pas s'il y a des inspecteurs s'il faut appeler ça des inspecteurs, mais des personnes voilà qui contrôlent et qui sont plus dans l'accompagnement que dans la sanction. Et que c'était un peu plus démocratisé et mis en avant par l'État, je pense que tout le monde y gagnerait, tout simplement.
Et pour l'Afrique ?
En termes de politique ?
Ouais.
Oula. y a pas mal de choses qui sont en cours. Déjà, en termes de stabilité, je pense qu'il y a déjà pas mal de choses à faire. Malheureusement, il y a eu quelques années pendant lesquelles c'était assez stable. Pour le cas de l'Afrique depuis 2012, il y a une très grande instabilité. Donc la première étape, voilà, ce serait de retrouver cette stabilité. Et puis en termes de démocratie, le Mali était assez exemplaire pendant de nombreuses décennies. Du coup, ce serait retrouver un peu cette sérénité politique, le fait que les personnes croient à nouveau en leurs institutions, en leur gouvernement. On parlait tout à l'heure du Sénégal, depuis quelques semaines, on voit que c'est un peu compliqué aussi. Déjà retrouver cette sérénité. Et puis après, effectivement, il y a énormément de choses à construire parce qu'il y a un potentiel extraordinaire, que ce soit en termes de culture, en termes de produits, etc. Mais la base, effectivement, c'est de faire en sorte que la population retrouve la confiance en ses gouvernants. Et puis ensuite, il y aura des choses à construire dans un second temps.
Super, merci beaucoup, Houssaini.
Merci, Fanny.
Merci d'avoir écouté Sur le grill d'Écotable. Nous espérons que cet épisode vous a plu et que, comme nous, vous avez appris de nouvelles choses. Pour nous soutenir, n'oubliez pas de noter ce podcast 5 sur 5, de vous abonner et d'en parler autour de vous. Sachez par ailleurs que la musique de ce podcast est issue du merveilleux groupe engagé, le Caribou Volant. Et puis, surtout, n'oubliez pas d'aller manger dans les restaurants écotables. À bientôt sur notre grille !